Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé en fait.
MGV, c'est vous qui représentez le système.
Il est 9h40 sur France Inter, soyez les bienvenus dans l'instant M.
Vous êtes en direct, allez-y.
C'est Anne-Cécile Perrin, précieuse attachée de production de l'Instant M, qui m'a glissé ce livre, celui qu'elle a tant aimé, le Laetitia d'Ivan Jablonka. Je lis. Laetitia est morte publiquement. Son décès a été un événement médiatique. Ses parents ont suivi l'enquête à la télévision. Ses proches ont pleuré Laetitia au su et au vu de tous, entourée de dizaines de voisins, de milliers d'anonymes et de millions de téléspectateurs. Fin de citation. Faites entrer l'accusé s'empare à son tour de l'affaire et met parfaitement en lumière la surmédiatisation de ce fait divers, ses ficelles et ses effets sur les individus qui l'ont vécu, mais aussi sur la justice. Justice et la politique.
L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Bonjour Frédéric Lantieri.
Bonjour Sonia.
Alors, dimanche soir, 22h20, on est bien content que vous reveniez, ça faisait au moins un an qu'on ne vous avait pas vu. Comment on sait quand, en fait, entrer l'accusé va revenir, s'en aller, tout ça? Comment on fait pour s'y retrouver?
Alors, en tout cas, normalement, à partir du 28, donc à partir
c'est
du dimanche.
Tous les dimanches.
C'est tous les dimanches jusqu'au mois de juin. En tout cas, on a cette certitude-là.
Voilà. C'est déjà pas mal. Peut-être vous vouliez préciser qu'en fait, le documentaire qui a été réalisé par Guillaume Maury l'a été. Avant
la sortie du livre d'Ivan Jablonka.
De Jablonka, oui. Qui lui aussi a été beaucoup médiatisé. À mes côtés également Iris Bray. Bonjour Iris.
Salut Sonia.
Tout va bien?
Tout va bien.
Allez, un mot d'actu des médias, tout pile pour vous Iris, dans tout ce que vous aimez. Après le Parisien, l'Obs, la Provence, c'est au tour des journalistes femmes de Ouest-France de taper du poing sur la table. Les responsabilités les plus importantes et les plus gros salaires du journal vont exclusivement ou presque aux hommes, écrivent-elles. Sur 15 membres de la rédaction en chef, deux femmes. Sur 12 directeurs départementaux idem, deux femmes. À Ouest-France, comme dans de nombreux journaux, des femmes souhaiteraient accéder à ces postes à responsabilité qu'elles ne le pourraient pas, faute d'ouverture à candidature de façon publique et transparence. Et transparente dénonce par ailleurs ce communiqué. Voilà, ça c'était du tout pile pour Iris, mais on a Frédéric Lantieri qui hoche la tête par ailleurs. Voilà, les chroniqueurs de l'Instant M se répondent les uns les autres. Alors mardi, on avait notre monsieur série, Romain Nigita, qui nous racontait que Sterling K. Brown, l'acteur de This Is Us, la série qui est en train de passer sur Sister, vient de remporter un très prestigieux trophée américain et qu'il est le premier acteur noir à recevoir le dit trophée. C'est là-dessus que vous poursuivez Iris.
Oui, parce que contrairement à ce que pensent les Français, seulement 18% des personnages sont noirs dans les fictions américaines. Je sais, ça paraît peu,
très
dans
peu.
Un pays où la statistique ethnique est autorisée, où l'on n'hésite pas à parler de quotas et où c'est même un job à part entière dans les chaînes de télé de réfléchir à la représentation de la diversité à l'écran. Par ailleurs, notre CSA national vient de publier son rapport annuel sur la télévision française qui demeure d'une livide pâleur. Mais quand même, la proportion de personnes, je cite, perçues comme non blanches, hein, c'est comme ça qu'on dit quand la loi interdit de compter les couleurs de peau, est en augmentation. Et grâce à quoi? Eh bien grâce à la fiction et notamment à la fiction américaine qui fait monter le nombre de personnages noirs chez nous.
Voilà, c'est exactement pour ça qu'on les imagine. Imaginez beaucoup plus nombreux dans les séries américaines aux États-Unis. Alors, lorsque l'acteur de This Is Us, reçoit son prix, il y a une conférence de presse et sa couleur de peau déclenche un autre débat inattendu de l'autre côté de l'Atlantique.
Oui, on s'éloigne carrément des séries télé. La première journaliste qui pose une question, Jalissa Lachey, ouvre le bal en prévenant qu'elle va poser une question qui va déranger. Est-ce que vous êtes conscient de l'inégalité des opportunités offertes aux journalistes noirs par rapport à leurs collègues blancs? Et est-ce que vous pensez qu'Hollywood a un projet pour que les salles de rédaction reflètent la diversité qu'on commence à voir dans les séries?
Voilà, c'est vraiment lui, acteur noir, que pense-t-il de la couleur de peau des journalistes qui sont face à lui au moment où il reçoit le prix? Alors Sterling K. Brown s'arrête en fait, il est assez médusé, il s'y attendait pas du tout, il réfléchit et il assène « you got points », c'est-à-dire en gros, vous avez raison.
Oui, en fait il prend un moment pour regarder les journalistes qui sont dans la salle en face de lui
et c'est forcément des blancs,
puisque les chiffres officiels de l'ASNE, l'Association américaine des rédacteurs de journaux, journaux en 2017 donnent seulement 16,6% des rédactions comme étant issues des minorités, alors que 39% de la population américaine est non blanche. Et si on regarde de plus près le New York Times, 80% des rédacteurs sont blancs et 8% sont noirs. La journaliste noire Jalissi Lachey, qui a posé cette question, travaille elle-même non pas pour un média généraliste, mais pour Black Tree TV, une plateforme de contenu qui dit s'adresser à un public noir.
Voilà, et ça, c'est une tradition ancienne aux États-Unis, Iris.
Oui, qui existe depuis 1827. Mmh. C'est là où l'émergence de la Black Press commence avec un journal qui s'appelle Freedoms, une revue anti-esclavagiste. Après, en 45, il y a même trois journaux qui sortent et qui marchent très bien dans les années 60-70.
Des journaux nationaux.
Des journaux nationaux, puis ça devient des journaux plutôt régionaux en 60-70 qui sont très politisés. Aujourd'hui, il y a plus de 200 journaux visant un lectorat afro-américain, avec en plus des sites web comme The Griot ou des chaînes télé comme BET, Black Entertainment Television, qui d'ailleurs s'était lancé en France en 2015, sans animateur noir, et qui se définissait alors, je cite, comme une chaîne ouverte, non communautaire. Encore perçue comme un gros mot, la presse communautaire assume mal sa vocation en France, alors qu'elle fait un travail, à mon avis, nécessaire, rendre visibles ceux et celles qui sont encore absents de nos écrans.
Merci Iris, à bientôt.
L'Instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Faites entrer l'accusé, ce sera dimanche soir à 22h20. Le documentaire est réalisé par Guillaume Maury. Trois étapes dans l'affaire Laetitia. Je vous les rappelle brièvement si vous les avez oubliées. La disparition d'une jeune fille en janvier 2011 du côté de Pornic. On ne retrouvera la totalité de ce corps démembré dans un étang qu'au bout de 3 mois. L'arrestation du suspect, Tony Meillon, homme extrêmement violent, libéré de prison. Débat sur la récidive qui s'enflamme et qui devient politique. Et enfin, troisième acte, la famille d'accueil dans laquelle Laetitia a grandi est frappée par le scandale. On découvre que le père a abusé et violé, peut-être de Laetitia, on ne sait pas, mais en tout cas de sa sœur jumelle. Frédéric Lantieri, prenons chacun de ces chapitres par le biais de leur médiatisation. C'est un fait d'entrée l'accusé émaillé par les unes de presse et par les extraits de JT que vous avez retrouvés au fur et à mesure. Lorsqu'on se mobilise pour retrouver Laetitia, eh bien c'est devant toutes les caméras de France. On entend le père de cette famille d'accueil.
Toute une famille, des amis et des proches unis dans la douleur. Cet après-midi, plus de 2000 personnes se sont rassemblées. Rose blanche à la main, ils ont parcouru le dernier chemin emprunté par Laetitia, la nuit de sa disparition.
Ton calvaire au cours de ces derniers moments sera maintenant notre souffrance de tous les jours. Nous te promettons de ne pas lâcher notre combat. Nous continuerons pour toi. Nous t'aimons.
Dans l'histoire, Frédéric Lantieri, des victimes médiatisées, son propre avocat dira il se place au premier rang. C'est le père de famille de victimes idéale.
Ah mais c'est la victime exemplaire. D'abord, c'est une famille d'accueil, donc on peut imaginer qu'il y a cette espèce de générosité d'accueillir des gamins en souffrance, d'essayer de les remettre sur les rails, et qui donnent leur amour d'une façon pratiquement désintéressée. C'est ça aussi, les familles d'accueil. Donc vous imaginez un petit peu cet homme avec la rose blanche à la main qui vient dire que fait-on de cet enfant qu'on a essayé d'élever et qu'on a essayé de sortir de l'ornière.
Et d'ailleurs, ce sera une stratégie, et y compris une stratégie de la part des enquêteurs et des avocats, que d'utiliser les caméras et d'utiliser la mise en scène de ce chagrin familial et cette mobilisation de l'opinion publique autour de la famille pour faire craquer le suspect. C'est pas pour rien que tout ça passe à la télévision.
Oui, parce qu'en fait, il faut le rappeler, c'est-à-dire que donc on sait qu'il a tué Laetitia, parce qu'on retrouve son sang chez lui, dans sa voiture, etc. Mais on ne retrouve pas le corps. Et lui, tellement content d'avoir été médiatisé, il dit « Ah, je vous le dirai pas ». Et donc, tout le monde est là à chercher, donc et c'est une façon aussi de le faire craquer. On se dit peut-être que cet homme a un soupçon d'humanité, parce qu'on le traite de tous les noms, de monstre, etc. Donc on lui met en avant la souffrance des proches de Laetitia en disant « Mais pour eux, dites-le, dis où est le corps, au moins qu'on puisse lui donner une sépulture, au moins que... » voilà.
Et mais il ne craquera pas.
Il ne craquera jamais.
Il ne craquera jamais. Tony Meillon, qui est à ce moment-là déjà en prison, il ne craquera jamais. Mais il faut bien montrer
que... Ce que vont faire d'ailleurs les enquêteurs, je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'à ce moment-là, ils vont se dire, ok, ce type ne va pas parler, comment on peut... Nous, on serait à sa place, où est-ce qu'on mettrait le corps? Donc ils se disent, en fait, il y a une zone... Il faut qu'il soit dans une espèce de zone de confort. Donc ils vont aller voir sa famille, ils vont lui dire, bon alors, il a de l'habitude d'aller où? On dit, ben voilà, il pêche dans tel étang. Ils sont allés voir, et à 8 mètres, il y avait en tout cas, dans un premier temps, la tête et les membres.
Et voilà, les membres. Il y a, un détail de ce fait d'entrer l'accusé qui nous a arrêtés. Et souvent, on se dit que quand on retrace un fait divers, il y a des invariants, il y a des figures de style qui sont toujours les mêmes. Vous êtes la mieux placée pour le savoir depuis toutes ces années que finalement vous refaçonnez ces histoires pour la télévision. Et puis, généralement, il y a un ingrédient, quelque chose de très surprenant, de totalement hors norme, de presque tellement irrationnel que ça en devient poétique. Tony Meillon, au début de son arrestation, il est seul dans une prison, dans une geôle, au tribunal de Nantes.
Ah oui. Et il chante.
Et il va faire ses aveux en chantant. On écoute.
La teneur de cette chanson était essentiellement sur le bon temps, du bon temps qu'il avait passé avec Laetitia, son petit corps, comme c'était bon, que si c'était à refaire, ça serait fait, ça, il le referait, et qu'on en découvrirait d'autres.
Les propos, c'est que, grosso modo, là où je t'ai planqué, ils ne te retrouveront jamais.
Et tout ça, c'est
le temps de chanson. Il faut préciser qu'il se croit seul.
Oui.
Il se croit seul et je chante comme on chante sous sa douche.
Après une garde à vue.
Après une garde à vue assez éprouvante quand même, hein, parce qu'on a beau être un type aguerri qui en a fait quelques-unes, on est quand même... Donc lui, il est là, il se croit tout seul dans sa cellule et il se met à chantonner comme nous dans nos salles de bain. Sauf qu'il y a un gendarme, il y a des gendarmes qui sont là et qui vont prendre avec leur smartphone, ils vont
enregistrer
la petite chanson de
et la faire écouter au juge. Dans votre carrière, vous en avez souvent relevé comme ça ces espèces de détails qui rendent l'histoire poétique, humaine, déroutante.
Poétique, je ne sais pas si je trouve ça très poétique, mais moi...
je ne sais pas, d'imaginer ce tueur qui d'un seul coup se met à chanter ce qu'il n'a pas pu raconter aux flics. Oui, il y a quelque chose de littéraire, il y a quelque chose...
Il y a quelque chose d'une surpuissance. Il y a quand même quelqu'un qui se croit tout puissant. Quand même, quand il fait ça.
On va en reparler justement, parce que ça fait partie de ce jeu entre ceux qui ont vécu ce fait divers et la façon dont il a été médiatisé. La deuxième étape, et qui passe aussi énormément par la presse et la télévision, c'est la récupération politique. Rappelons qu'on est à un an des élections, on va entendre le père de la famille d'accueil, et puis on va entendre Nicolas Sarkozy.
Il n'a pas le droit de sortir. Alors la justice, elle est où là ? C'est les juges, ce sont... Le juge qui l'a laissé sortir est un assassin pour moi.
Quand on laisse sortir de prison un individu comme le présumé coupable, sans s'assurer qu'il sera suivi par un conseiller d'insertion, c'est une faute. Ceux qui ont couvert ou laissé faire cette faute seront sanctionnés.
Au cours de ce fait d'entrer l'accusé, Ondine Millot, journaliste à Libération, vous le raconte, on est à un an de la présidentielle. Nicolas Sarkozy ne manque pas une seule occasion de citer l'affaire. Il va jouer deux cartes, celle de l'émotion collective et celle de la mobilisation de l'opinion publique. Frédéric Lantieri.
Oui, et ce qu'il ne faut pas, ce que vous voulez dire, c'est que ces paroles vont provoquer un énorme mouvement pour la première fois dans la magistrature qui va se mettre en grève, ce qui est absolument hallucinant. C'est-à-dire qu'en France, c'est exceptionnel. Les magistrats vont être tellement indignés qu'ils vont se mettre en grève, je ne sais plus combien de jours, je me demande si ce n'est pas une dizaine de jours. Enfin, c'est vraiment, c'est du jamais vu. Parce que ce qui les indigne, c'est qu'en fait, je crois d'ailleurs qu'il y a quelqu'un dans le film qui le dit très bien, c'est que c'est facile de les montrer du doigt, mais si on leur donne aucun moyen pour travailler, comment ils font ?
Il le dénonce à ce moment-là, il y avait à ce moment-là 897 dossiers en attente de traitement.
Devant pour le juge d'application des peines, pour ceux qui s'occupent de l'approbation, pour la sortie. Donc à un moment donné, comment vous faites ? Surtout qu'en plus, lui, sa dernière condamnation, c'est ce que raconte Ondine Millot, parce que je crois qu'elle a vraiment eu accès absolument au casier judiciaire. Ce qu'elle voit, c'est que sa dernière condamnation, c'est une condamnation pour outrage à magistrat lors d'une procédure devant le juge
donc il n'était pas un cas pas prioritaire pour le juge d'application des peines. C'est ce qu'on découvre à ce moment-là.
C'est-à-dire que si lui... on l'alerte pas et on lui dit attention, voilà, c'est pour une broutille, mais ce type est carrément assez dangereux. Il a pas moyen de le savoir. Soit à se remettre dans tous les dossiers et il ne peut pas humainement, il n'en a pas le temps matériel humainement de se plonger dans ces 800 dossiers.
Alors vous l'avez déjà dit, Frédéric Lantieri, pendant ce temps-là, c'est la diabolisation médiatique de Tony Meillon qui se met en place, qui se nourrit. Là aussi, c'est une machine qui est lancée à pleine vitesse. Il est l'ennemi public numéro un. Et du coup, tous les acteurs de ce dossier réfléchissent à l'effet sur cet homme lui-même de cette surmédiatisation.
Tony Meillon est devenu l'homme qui est qualifié de monstre par le chef de l'État sur les chaînes de télé dans le journal télévisé. Meillon est devenu l'homme qui a mis le monde judiciaire, la France entière, dans la rue. Donc, sur une personnalité déjà mégalomaniaque dans la toute-puissance, je pense que ça a renforcé des traits qu'il présentait déjà, mais également peut-être que finalement il n'a fait que se couler dans le costume qui lui était taillé par ce contexte et par les déclarations qui étaient faites dans les médias à son sujet.
C'est extrêmement intéressant qu'un prévenu ou enfin qu'un suspect se taille dans un costume taillé par les médias. Se coule dans un costume taillé par les médias.
Ah, ça arrive assez souvent. Mm-hmm. Ça arrive assez souvent. Mais là,
qu'il y a un jeu de miroir comme ça.
Oui, puis vous savez bien, même les enfants, on leur dit « t'es comme ça », ils finissent par... oui, c'est une forme d'injonction, hein. Soit ce qu'on prétend que tu es, et puis voilà. Donc, puisqu'on me dit que je suis comme ça, bah, autant l'être. Hein.
Voyez, d'où c'est la vraiment, toute-puissance, donc en fait ça n'a fait que renforcer ce sentiment de toute-puissance.
Non mais vous vous rendez compte, ce type, il met à genoux la magistrature, il se moque des gendarmes, il fait parler de lui par le président de la République, le personnage le plus haut de l'État, vous imaginez, je veux dire, c'est une gloire incroyable.
Et d'ailleurs, plus tard dans le documentaire, l'avocate de Jessica, qui est la sœur jumelle de Laetitia, racontera les procès de Tony Meillon, la capacité de cet homme à se mettre en scène lui-même face à une foule exceptionnelle de journalistes, 110 accréditations rien que pour la première audience. Et elle dit, à son arrivée au deuxième procès, ce sont les mots de l'avocate elle-même, elle dit, c'est comme la saison 2 d'une série télé. Nouveau look pour un nouveau rebondissement.
Oui, parce que la première fois, il a les cheveux très longs, là, carrément, il s'est presque rasé la tête. Enfin, vraiment, c'est à chaque fois, nouveau genre, nouveau look. Oui, vous allez en voir. Oui, c'est...
Comme un personnage.
Oui, il a profité de ça, bien sûr.
Tony Meillon, il est aujourd'hui en prison, Frédéric.
N'oublions pas que lui, oui, ce qui est intéressant aussi, et je crois qu'à un moment donné, il y a une avocate qui le dit, c'est que lui-même, il a une, comme Laetitia, il a eu une enfance fracassée. Mm-hmm. Et il y a une phrase que je trouve très intéressante dans ce documentaire de Guillaume, c'est que il y a cette avocate qui dit, en fait, dans sa famille, lui, son frère aîné est le fruit de l'inceste entre la mère et le père.
Et le grand-père.
Et le grand-père, donc père, grand-père, bref. Et qu'en gros, elle dit, il n'a jamais connu de première loi, la première, cet interdit originel, en fait. Et donc, il ne peut, en fait, il ne respecte aucune loi des hommes, puisque cette première loi, il ne l'a pas connue. Et il y a comme quelque chose de terrible dans ce fait divers, comme quelque chose d'implacable, comme si de part et d'autre, tout concourait la société dans son traitement de l'enfance saccagée, que ça soit pour Laetitia ou pour Tony Meillon,
etc. Pour
comme si tout concourt vers ce point dramatique et tragique de la mort de
D'ailleurs,
Laetitia.
Il y a une présence exceptionnellement accrue dans ce fait d'entrer l'accusé des familles, et des familles des deux côtés. Vous avez le témoignage du père biologique des deux jumelles, celui qui était le mauvais père, celui à qui il avait fallu arracher les filles face à ce père médiatiquement exemplaire, et dont on finira par découvrir qu'il est le pervers qu'on sait aujourd'hui.
Il était en prison, c'est pour ça aussi. Donc lui était en prison pour des faits commis contre sa femme, la mère des enfants. Donc c'est petite, elle se retrouvait sans personne parce que la mère était vraiment à l'ouest. Et donc voilà, elles sont passées en foyer, puis après en famille d'accueil.
Et puis vous avez le témoignage, alors là très bouleversant, de la mère et de la sœur de l'assassin de Tony Meillon.
Il m'a séquestré avec un pistolet. Ici ou sur la tombe, je ne sais plus, je ne me rappelle plus. J'étais tellement choquée que j'avais sa petite sœur. Et donc je lui avais supplié de me lâcher, de me laisser partir.
En fait, quand c'est comme ça, faut se taire, quoi. Lui dire, allez, arrête, c'est bon, calme-toi, on t'aime, arrête, s'il te plaît. Presque se mettre à genoux, finalement. Se mettre à genoux pour s'excuser de quelque chose, en fait, qu'on n'a pas fait.
Voilà. Tony Meillon, l'homme à qui on ne pouvait pas dire non. C'est un peu ça.
L'homme à qui on ne pouvait pas dire non.
Et justement, pouvait pas s'opposer.
Je me posais la question, Frédéric Lantieri, et vous avez dû vous la poser aussi. Tony Meillon, il est aujourd'hui en prison. Quel effet, puisqu'on a parlé de l'effet de la surmédiatisation, sur cet homme à l'époque de sa garde à vue, de ses procès, quel effet ça produit sur un détenu de se voir ainsi portraituré en majesté par la télé?
Il
va regarder probablement.
Ah bah évidemment,
c'est
va
la
regarder.
Suite de son histoire et c'est la suite de la médiatisation de son histoire. C'est le miroir qui se poursuit.
Bien sûr, en permanence, oui. Et peut-être que, alors pour certains détenus, ça va peut-être être considéré comme un surcroît de gloire. Mmh. Peut-être qu'il va en tirer des lettres de noblesse en prison, ce qui est quand même assez atroce. Ou alors, pour certains, il va être. Mais je crois que tout le monde connaît son histoire, en fait, en
tout
prison.
Tout le monde connaît son histoire.
Bien sûr.
Justement, une dernière question et qui n'a plus rien à voir avec Tony Meillon, mais
mais la France entière cherche la petite Maëlys en ce moment qui a disparu mystérieusement pendant un mariage. Il y a un suspect qui a été entendu, Nordal Le Landais, puis il y a des cold cases qui remontent, des dossiers non résolus. Puis on se demande si on n'a pas affaire à un nouveau tueur en série. Ça ne vous démange pas, Frédéric Lantieri, avec le réseau extraordinairement pointu de gendarmes, de juges, d'experts qui font confiance à votre émission. Ça ne vous démange pas de plonger dans ce genre de dossier?
Bah, on a vraiment envie d'être sur le terrain, sauf que là, je suis plus sur le terrain. Je l'ai été longtemps. Actuellement, je ne le suis plus. Mais Dominique Rizet y est pour nous. Hein.
Dominique Rizet y est pour vous, mais ça veut dire que vous continuez de ne traiter que des cas terminés, des cas résolus.
Ah oui, mais bien sûr.
Mais vous n'êtes jamais tenté.
Mais non, mais c'est une des raisons pour lesquelles on a tous les acteurs judiciaires. C'est parce que justement, toute l'affaire est terminée, et donc tout le monde peut s'exprimer et que le téléspectateur peut lui-même se faire son opinion.
Merci beaucoup, Frédéric Lantieri.